Le troisième sujet sur lequel le peuple et les cantons se prononceront le 8 février relève d'un domaine très sensible. Il s'agit en effet de l'initiative populaire dite « internement à vie » pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables. Sur le principe, tout le monde est d'accord. Il faut protéger la société contre des monstres comme le sadique de Romont qui a violé, torturé et tué au moins 5 jeunes gens dans les années 80. Ou encore contre Werner Ferrari, condamné à 12 ans de réclusion en 1970 pour l'assassinat d'un enfant, puis libéré 9 ans plus tard pour tuer à nouveau, à 5 reprises cette fois. Ce sont d'ailleurs ce genre d'actes de barbarie qui ont suscité le lancement de l'initiative. Alexandra Richard.
En novembre 1993, un détenu récidiviste en congé assassine une jeune scout à Zollikerberg dans le canton de Zurich. À cette époque, le pays est encore sous le choc de la révélation des crimes de Michel Perry, le tristement célèbre sadique de Romont. En 1998, l'association Lumière de l'Espoir, qui regroupe des familles et des proches de victimes de tueurs en série, décide de lancer son texte. En 18 mois, les initiants récoltent plus de 200 000 signatures. 196 000 seront finalement reconnus valables, soit presque le double du nombre nécessaire. Uniquement en Valais, où les familles des victimes de Michel Perry se sont mobilisées, les citoyens ont été plus de 40 000 à signer l'initiative.
Le message à la classe politique paraît donc clair.
Oui, et celle-ci n'a pas attendu pour agir. En 1993 déjà, le ministère de Justice et Police a mis en chantier une vaste révision du code pénal. Au vu du résultat, la ministre de la Justice, Ruth Metzler, a salué les auteurs de l'initiative en reconnaissant que le dépôt de leur texte avait influencé les travaux du Parlement. Les auteurs de cette révision, qui doit entrer en vigueur en 2005 ou 2006, considèrent que leur texte est plus complet, plus cohérent et plus efficace que celui de l'initiative. Le gouvernement et les deux chambres du Parlement recommande donc le rejet de celle-ci sans lui opposer de contre-projet. Au Conseil national, il ne s'est trouvé que 35 députés contre 128 pour soutenir l'initiative. Il s'agit de la majorité du groupe UDC et de l'unique représentant des démocrates suisses, petite formation d'extrême droite. Au Conseil des États, le score est encore plus net. 23 députés rejettent l'initiative pour seulement un qui l'approuve. Face à un score aussi tranché, certains parlementaires tentent alors d'obtenir des initiants qu'ils retirent leur texte. Selon eux, la révision du code pénal suffit largement à remplir leurs vœux, mais les négociations échouent. Lumière de l'Espoir n'en démord pas. Sa position doit être soumise au verdict du peuple.
Mais alors Alexandra, si les uns défendent l'initiative et les autres la révision du code pénal, au fond, qu'est-ce qui différencie les deux textes ?
Comme son nom l'indique, l'initiative entend introduire l'internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux. Il ne s'agit pas d'une peine de perpétuité, mais bien d'une prolongation de la peine infligée qui durerait aussi longtemps que le criminel représente un danger pour la société. Toujours selon l'initiative, la libération de ces grands criminels n'interviendrait que si, je cite, « de nouvelles connaissances scientifiques permettent d'établir qu'il peut être amendé et qu'il ne présente plus de danger pour la collectivité ». C'est ce point qui fait problème, cette notion de nouvelle connaissance scientifique paraît nettement trop floue à certains juristes qui parlent dès lors d'une initiative rédigée par des amateurs. De plus, en ne prévoyant pas de réexamen périodique de la situation du condamné, ce texte risque bien de contrevenir à la Convention européenne des droits de l'homme.
Donc, si on vous comprend bien, on reproche à cette initiative sa trop grande dureté.
Oui, exactement. Et même la droite du Parlement s'en est émue, jugeant l'initiative à la fois inhumaine et indigne. Dans la révision du code pénal, au contraire, il est prévu un réexamen périodique de la situation du criminel. Mais la critique ne s'arrête pas là. Paradoxalement, on reproche aussi à l'initiative d'être trop laxiste. En effet, elle ne désigne comme candidat potentiel à l'internement que les délinquants sexuels ou violents jugés très dangereux et non amendables, ce qui exclut bon nombre d'autres criminels. La révision du code pénal, par contre, permettra d'appliquer des mesures d'internement de sécurité à vie à tous les délinquants qui ont commis des actes graves et qui présentent un risque de récidive.
On l'a dit, cette initiative a été massivement repoussée par le Parlement. Dans les rangs du Conseil national, Anne-Catherine Ménétret fait partie de ceux qui ont voté pour son rejet. Alors est-ce là une position difficile au vu des soucis des initiants que tout le monde peut tenir pour légitime ? Les explications de l'écologiste vaudoise.
Je crois qu'il faut dire que nous reconnaissons les préoccupations des gens qui ont lancé cette initiative, non seulement leurs préoccupations, mais le fait qu'ils sont particulièrement concernés, puisque c'était des proches de personnes qui ont été victimes de ces crimes. et nous considérons effectivement qu'il y a dans ce pays un petit nombre, mais quand même un certain nombre de criminels véritablement extrêmement dangereux et que la sécurité de la population mérite qu'on prenne des mesures. Alors, cela dit, dans la révision de la partie générale du Code pénal, nous avons déjà pris des mesures pour renforcer les possibilités d'internement pour des criminels dangereux. La différence qu'il y a avec l'initiative, c'est que la légitimité de l'internement doit être revue périodiquement pour suivre l'évolution de la personne et pour permettre sa libération au cas où il y a une amélioration. Alors que l'initiative ne permet pratiquement aucune libération, c'est un internement à vie. Et cela d'ailleurs nous paraît contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Une expertise a été faite par un professeur de droit qui a même proposé que l'initiative soit déclarée non recevable pour cette raison.
L'initiative prévoit quand même un cadre d'examen au cas où de nouvelles connaissances scientifiques permettraient de poser un diagnostic différent sur l'évolution future du criminel en question. Ce concept a paru trop flou au législateur.
Oui, alors absolument. D'autant plus qu'au fond, c'est un élément extérieur, c'est-à-dire des nouvelles connaissances scientifiques qui auraient ici une influence et qu'on ne suivrait parallèlement absolument pas l'évolution de la personne. Or, nous considérons qu'une personne qui n'a strictement aucune perspective d'avenir ne peut pas évoluer favorablement. Au contraire, nous craignons que les prisons deviennent absolument ingérables si on a des gens qui savent qu'ils n'ont pratiquement aucune chance de sortir. C'est le risque d'une violence qui peut exploser à l'intérieur des prisons. Ça nous paraît tout à fait contre-productif.
On a également reproché à l'initiative de ne s'adresser qu'à certains types de criminels et pas à d'autres. Alors dans ce domaine, en quoi est-ce que la révision du code pénal protège mieux la société que ce que prévoirait l'initiative ?
Alors écoutez, à notre avis, la révision du code pénal avait aussi ce défaut. Au départ, nous aurions souhaité qu'on précise les critères et en particulier que ce soit des personnes qui sont désignées comme ayant des troubles graves de la personnalité ou des troubles psychiques. Ça n'a pas été le cas, donc dans la révision du code pénal, on a aussi cette notion de dangerosité qui fait problème. Si je peux prendre juste un exemple concret, un automobiliste qui roule à contresens sur une autre route, il a un comportement extrêmement dangereux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va lui faire subir un internement. Donc il y a ce concept de dangerosité qui est assorti spécialement dans l'initiative par le concept de non amendable. Même on a dit parfois incurable. Donc on a des gens qui ne sont pas des malades mais qui sont en même temps incurables. Là il y a un paradoxe. Et ça n'a pas été suffisamment clarifié dans le code pénal à notre avis. Mais alors, dans l'initiative, il y a un élément de plus, c'est l'expertise psychiatrique qui doit établir que des gens sont incurables, ce qui nous paraît tout à fait hors de l'éthique de la psychiatrie. Et ce qui nous frappe dans cette initiative, c'est que, en quelque sorte, elle surestime justement la capacité des psychiatres de faire des pronostics à long terme pour dire que quelqu'un est incurable, mais en même temps, elle sous-estime la capacité des psychiatres, enfin des thérapie, d'améliorer le comportement des gens.
Pour bien préciser les choses, quand on parle de ces mesures d'internement, il s'agit de mesures et de durées d'internement qui vont au-delà des peines à laquelle la justice peut condamner une personne.
Oui, bien sûr, puisque l'internement, en principe, n'est pas une peine. On pourrait même avoir le cas où il y a un jugement qui fixe un certain nombre d'années de prison, puis un internement. Donc ça veut dire qu'une fois que la peine est accomplie, la personne, en plus, elle est internée. Ce qui fait problème dans des cas comme ça, c'est qu'on ne sait pas comment cet internement va se passer. C'est-à-dire que la personne sera toujours dans un établissement pénitentiaire, mais l'initiative dit qu'il n'y aura aucun congé, par exemple. On ne sait pas s'il y aura du sport, des ateliers, enfin quelque chose. Donc ce sont des conditions de détention qui vont être inhumaines. C'est vraiment la mort lente. C'est pas la peine de mort, mais c'est la mort sociale et c'est la mort lente. Ça nous paraît extrêmement dangereux.
Dans le camp de ceux qui ont voté pour l'acceptation de l'initiative, on trouve une bonne partie du groupe UDC. André Bugnon, élu vaudois de l'Union démocratique du Centre, soutient celle-ci au nom du principe « Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras ».
Pour nous, l'initiative est préférable parce que c'est une problématique qui dure depuis longtemps. Et puis, il est totalement inadmissible qu'on puisse admettre, relâcher dans la nature des délinquants qui ont commis des crimes à l'encontre de gosses, en règle générale. Et quand on sait que le taux de récidivisme est très important, on n'a pas le droit de laisser ce risque-là qui est patent, j'entends. Donc, par rapport aux jeunes qui ont perdu la vie, par rapport à leurs parents, leurs familles qui ont souffert, je crois qu'on ne peut pas laisser aller les choses comme ça. Et puis, il n'y a que l'internement à vie qui est la solution pour ce genre de problème.
Mais il a été proposé d'inclure les dispositions de cette initiative dans la révision du code pénal. Si elle est acceptée, est-ce que vous ne pensez pas qu'on va en faire une loi qui va beaucoup ressembler à cette révision sur laquelle le Parlement vient de travailler?
Oui, peut-être bien, mais vous savez, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. En règle générale, on a remarqué que c'est pas la première fois qu'on dit non, mais de toute façon, on va arriver avec un autre moyen, par la modification de telle ou telle loi, à régler cette problématique-là. Mais après, dans le débat, les choses sont édulcorées, elles sont relativisées, il y a des modifications qui font que, en finalité, la loi qui est retenue ne correspond plus à l'objectif, ou plus totalement à l'objectif initial. Tandis que l'initiative, le texte, il est clair, il est fait, il a été publié, et je crois qu'on a meilleur temps de s'y rallier.
Est-ce que ça veut dire que vous pensez que la révision du code pénal ne va pas assez loin?
Alors, on ne connaît pas encore justement les tenants et aboutissants, puisque la loi n'a pas été traitée. Alors peut-être que dans l'esprit de ceux qui disent « mais la révision du code pénal suffira », peut-être bien que dans leur esprit, cette révision irait assez loin. Mais je l'ai dit tout à l'heure, avec les aléas du débat parlementaire, il risque en définitive de rester plus grand-chose ou que la moitié de l'objectif. Donc, face à une initiative qui est là, on a meilleur temps de choisir la moyenne qui nous donne le plus de garanties par rapport à cette problématique, à savoir l'internement des personnes qui ont commis des actes sexuels, qui ont tué quelqu'un à cause de problèmes sexuels.
On a beaucoup reproché à cette initiative le fait qu'elle prévoit un réexamen de la mesure d'internement uniquement en cas de nouvelles découvertes scientifiques qui permettraient de changer le pronostic sur le criminel en question. Est-ce que vous ne pensez pas justement que c'est un peu vague comme formulation?
Alors c'est vague, c'est la seule possibilité qu'il y a de modifier dans le fond l'internement. Actuellement, il y a eu énormément de débats qui ont été faits et puis certaines personnes qui ont été internées un certain nombre d'années après examen des psychologues, médecins, etc. On arrive à la conclusion qu'ils représentaient plus de danger à la société. Il y a eu une libération sous condition et malgré cela, il y a eu des récidives. Donc on n'a aucune garantie dans la situation actuelle de pouvoir faire une analyse juste de la personne malgré un certain nombre d'années d'internement. Donc il n'y a que cette possibilité qui reste, à savoir l'évolution de la recherche scientifique qui pourrait dire oui, dans tel cas, on a la garantie absolue qu'on peut libérer cette personne parce qu'il y a vraiment peu de risques. Mais actuellement, on n'a pas ces moyens-là.
Les adversaires de l'initiative disent que cet internement ressemblerait à une mort lente et notamment que cette manière d'enfermer les gens serait contraire à certaines conventions, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, mais comment faire autrement? Bien sûr que ça peut être considéré comme une mort lente. Mais comment faire autrement? Relâcher quelqu'un pour qu'il commette un nouveau crime, pour le réinterner, c'est encore bien pire, j'entends, par rapport aux personnes qui sont touchées, aux familles qui sont touchées. C'est carrément inadmissible de ma part.